Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Quatrième rencontre cette semaine dans cette série des clés pour vivre. C'est un philosophe et puis un homme politique engagé au fond au service de l'humain. Bonjour monsieur Jean-Frédéric Poisson.
Bonjour.
Alors auteur de nombreux ouvrages dont celui-ci qui paraît aux éditions MAM, Soins palliatifs, la vraie alternative à l'euthanasie. Série. Alors on a parlé bien sûr beaucoup de cette humanité, de l'humain, de ses choix, de ses engagements, de sa liberté, de sa conscience, de ses soins palliatifs et on a très peu parlé de l'euthanasie là, qui est de l'ordre aujourd'hui dans votre engagement d'homme politique et puis d'homme tout court qui appartient à cette humanité qui arrive à la vie et qui prépare aussi la fin de son voyage. On en est où aujourd'hui dans ce grand débat, ce grand combat autour de l'euthanasie?
C'est un débat récurrent, la légalisation de l'euthanasie dans la vie politique française. Pendant très longtemps, il était évident que on n'a pas le droit de tuer son prochain. C'est interdit. Ma grand-mère qui est au ciel aurait dit c'est mal élevé. Et quand elle avait dit c'est mal élevé, elle avait à peu près tout dit. Il y a une forme d'ironie dans ce que je suis en train de dire, vous le comprenez bien. Ça allait de soi. Ça ne se discutait même pas. Et puis l'affaiblissement de la valeur de la personne humaine a fait que ça a commencé par se discuter qu'au nom de la liberté de choix, on a commencé à dire, quelques-uns commençaient à dire, moi je dois pouvoir mourir quand je veux et comme je veux. Bien. Et petit à petit, cet argument a fait florès, et on s'est retrouvé d'abord en 2009, première proposition de loi présentée par Manuel Valls, futur Premier ministre, alors député socialiste, puis d'autres propositions déposées par d'autres députés socialistes sous la mandature de François Hollande, qui avait promis de légaliser l'euthanasie, comme promesse de campagne en 2012, souvenez-vous. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs un certain nombre d'électeurs chrétiens d'avoir voté pour lui pour battre Nicolas Sarkozy, ce qui, quand on y pense, alors il peut avoir toutes les raisons du monde d'en vouloir à M. Sarkozy, c'est pas ça le sujet, mais enfin, c'est grave de soutenir quelqu'un qui a dit, écrit, publié, je légaliserai l'euthanasie, il y a quelque chose qui est grave dans le choix d'un candidat pareil, même s'il n'y a pas de candidat parfait.
Donc vous invitez donc à cette réflexion aussi, attention la manière dont on s'engage dans son vote.
Et bien
donc
sûr.
Il faut réfléchir, il y a une part de responsabilité et on devra rendre compte au moment de ce dernier voyage.
Mais bien entendu, oui. c'est un acte humain, donc il est aussi soumis aux règles de l'éthique. Bon, faut faire attention, alors il n'y a pas de choix parfait, il n'y a pas d'un, je sais, mais il y a... L'Église d'ailleurs a dit, il y a un certain nombre de principes dits non négociables sur lesquels on ne peut pas être d'accord, et donc on doit... Bref, parenthèse fermée. Sous l'impulsion de M. Macron, il y a eu aussi... Enfin, sous le mandat, pardon, de M. Macron, il y a eu une première tentative de légaliser l'euthanasie qui a échoué à l'été 2020, je crois, 19 ou 20. Et puis là, on est revenu avec, depuis le début de ce mandat, une proposition de loi qui a été adoptée en commission, dont le premier article a été adopté par l'Assemblée nationale. Et il était question, avec le gouvernement Barnier, de remettre sur l'ordre du jour de l'Assemblée la discussion de ce texte qui allie, dans le même mouvement, la légalisation de l'euthanasie, la légalisation du suicide assisté et les soins palliatifs. Point commun y a-t-il entre l'euthanasie, le suicide assisté d'un côté et les soins palliatifs de l'autre? Réponse, le seul point commun, c'est la circonstance. C'est la fin de vie. Mais tout les oppose. La solitude d'un côté, l'accompagnement de l'autre côté, la brutalité d'un côté, la douceur de l'autre. La compétence, le déploiement de l'ingéniosité d'un côté, la technique froide, brutale de l'autre. Enfin, tout les oppose. Absolument tout. Donc les mettre dans le même texte, c'était une opération de camouflage pour être clair. C'était pour dissimuler le fait que légaliser l'euthanasie veut dire instaurer dans la loi française un permis de tuer. Voilà, c'est très simple.
C'est aussi simple que ça.
Très direct, oui. Mes auditeurs nous le pardonneront, mais il faut appeler un chat un chat.
Alors récemment, M. François Bayrou a récemment proposé de séparer le projet de loi sur la fin de vie en deux textes distincts. Une bonne chose?
Ah, excellente.
Une bonne nouvelle?
Oui, très bonne nouvelle. D'ailleurs, les militants les plus acharnés de l'euthanasie sont furieux, ce qui est sans doute un bon signe. Encore la présidente de l'Assemblée nationale le matin du 6 février sur une antenne d'un certain nombre d'une radio périphérique de vos collègues disait combien elle était opposée à cette séparation, ce qui encore une fois est une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas ? Mais parce que précisément, le fait d'unir dans le même texte les soins palliatifs d'un côté et ce qu'ils appellent l'aide à mourir de l'autre côté, l'aide à mourir plus active et plus, l'euthanasie, le suicide assisté pour être clair, ça permettait de camoufler l'euthanasie et les soins et le suicide assisté derrière le paravent des soins palliatifs. C'est-à-dire ça donnait à l'euthanasie et au suicide assisté une espèce de vernis de dignité cautionné par le fait que les soins palliatifs aient figuré au fond dans le même texte. Et la journaliste qui interviewait Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Brune Pivet, le 6 février au matin, lui a dit, mais enfin, après tout, comment vous faites quand vous êtes favorable aux soins palliatifs et opposé à la légalisation de l'euthanasie quand vous êtes parlementaire ? Vous êtes obligé à la fin de voter pour ou contre tout le texte, c'est quand même ennuyeux, quelle que soit d'ailleurs votre position. Et dans une hypocrisie absolument sans nom, Madame la présidente de l'Assemblée a dit, mais vous pouvez toujours voter pour les articles pour lesquels vous êtes favorable et puis voter contre le reste. Et puis le texte après, bah, vous votez pour. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Lorsque la vérité éclate, c'est ça qui les ennuie. Et au fond, on va voir l'euthanasie et le suicide assisté pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire la brutalité, soit du permis de tuer, soit de la commission d'un meurtre par fourniture de moyens, pardon, là encore d'être sharp, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pointu et droit, peut-être un peu brutal, mais c'est ce dont il s'agit. Et que pour camoufler cette réalité, leurs partisans appellent ça des soins. Je vous renvoie, cette interview avait lieu sur la radio Europe 1, si je peux me permettre de le citer à votre micro. 6 février au matin, Madame Brune-Pivet dit « Si, si, c'est très important, l'euthanasie, c'est un acte de fraternité, c'est un soin ». Comment est-ce qu'on peut appeler soin quelque chose qui consiste à supprimer la vie de quelqu'un ? Expliquez-moi ça.
Donc là, on est à côté de la plaque, permettez-moi, mais...
On est dans le mensonge.
On est dans le mensonge, oui. On parlait de la vérité. Est-ce que c'est un mensonge collectif ? Est-ce que c'est un mensonge ? Parce que, permettez-moi, quand on parle de suicide assisté, quand on parle d'euthanasie, de vouloir légaliser l'euthanasie, on parle de finalité de la mort, d'un être humain. Est-ce qu'il se cache derrière une terrible peur de la souffrance, une terrible peur de mourir, et on revient encore une fois, permettez-moi monsieur Poisson, à ses débuts de vie, cette fin de vie, mais c'est la question de l'humanité et la peur de mourir tout simplement.
Mais c'est normal d'avoir peur de mourir.
C'est une bonne chose, hein,
c'est normal.
Pour ceux qui vous écoutent.
Mais c'est normal.
Hein, c'est normal.
Ni le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face, disent des philosophes. C'est insupportable. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas fait pour ça. On n'est pas fait pour la mort.
Alors en voulant légaliser cette mort ou suicide assisté, est-ce que c'est une manière de contrôler, une manière l'humain jusqu'au bout, de contrôler au fond, permettez-moi, on parle de cette humanité, des débuts et de fin, mais il y a cette humanité, il y a ce monde. Légaliser la mort et le suicide assisté, est-ce pour contrôler une humanité aussi ?
C'est se donner l'illusion que le pouvoir de l'humanité s'exerce non pas par Dieu, le pouvoir sur l'humanité est exercé non pas par Dieu, mais par l'homme. On l'évoquait dans un de nos entretiens précédents. Plus généralement, la manière dont on présente la fin de vie aux Français, pas qu'aux Français d'ailleurs, parce que dans beaucoup de pays c'est la même chose, c'est assez simple. On leur dit, voilà, le risque c'est que vous souffriez d'une affection grave, que on ne puisse pas vous guérir, et donc vous allez passer les derniers jours de votre vie, longtemps ou non, en subissant des douleurs atroces, en étant seul, sur un brancard d'hôpital dans un sous-sol avec la peinture des murs qui se décolle, les néons qui clignotent. Et donc c'est soit ça, soit rien d'autre, parce que vous ne pourrez pas subir autre chose.
Donc permettez-moi, mais on n'est plus là. Et puis
on fait peur parce que ça ne se passe plus comme ça, mais c'est ce qu'on dit aux gens.
Oui.
Ou en tout cas, c'est ce qu'ils entendent quand on leur parle de la fin de vie. Et donc on leur dit, rendez-vous compte, vous allez devoir subir ça. C'est la raison pour laquelle, bien entendu, vous puissiez dire vous-même, au moment, quand vous voulez, là ça s'arrête, je ne peux plus. Mais puisqu'on présente les choses implicitement ou explicitement aux Français de cette façon quand on leur parle de la fin de vie, comment exiger de qui que ce soit qu'il puisse devenir un héros ? Qui a envie de subir ce genre de circonstances ? Personne. Et d'ailleurs, ça n'est pas bon, ça n'est pas digne de les subir. Donc c'est normal qu'on rejette cette perspective. Le mensonge, où est-il ? Mais il est qu'il y a plus personne ne meurt dans ces conditions. Et qu'on sait maintenant soulager les douleurs, on sait soulager les souffrances, on sait accompagner les gens affectivement, spirituellement, socialement. On sait faire tout ça. Et justement, c'est ce que les soins palliatifs ont développé dans un accroissement de compétences en humanité, en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'innovation médicale, ce n'est pas du tout ça, de compétences en humanité. Alors, sauf le traitement de la douleur qui a énormément progressé, plus personne ne meurt dans ces conditions. Plus personne. Donc, en fait, c'est un mensonge qu'on dit aux gens. Non, madame, non, monsieur, personne d'entre vous ne subira des jours et des jours de souffrance insupportable en étant tordu de douleur, seul au monde, et non, personne. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, d'autant plus que la loi dit, depuis 26 ans, 99, que toute personne qui veut pouvoir bénéficier des soins palliatifs doit pouvoir en bénéficier. Malheureusement, les pouvoirs publics n'ont pas fait leur métier, comme souvent. Même s'il y a en Bigorre, où nous sommes en ce moment, un réseau absolument formidable, dont j'ai appris l'existence récemment, qui s'appelle SP2, comme soins palliatifs, j'imagine, et qui permet, au fond, d'assurer une plus grande présence des soins palliatifs auprès des patients de votre région, en Bigorre en tout cas, du côté de Lourdes. Donc les associations prennent le relais, mais on ment aux gens. Non, vous n'êtes pas condamné à souffrir le martyr dans vos derniers jours en étant seul au monde. Ça n'est pas vrai. Non, vous n'êtes pas condamné à être perclus de douleur parce qu'on sait soulager les douleurs maintenant à 99,9999%. Non, vous n'êtes pas condamné à ne pas comprendre ce qui vous arrive et à...
Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, permettez-moi, mais vous terminez là sur une note plutôt positive.
Mais bien sûr.
On a tous les moyens qu'il faut aujourd'hui pour terminer cette fin de vie.
Dans des conditions les plus dignes possibles.
Hein. Et puis dans le soulagement de la douleur.
Et dans le soulagement de la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Les deux. On sait faire ça.
On sait faire ça. Oui. On l'entend et c'est pour ça qu'on vous reçoit. Des clés pour vivre, c'est le titre de cette émission et puis de cette série. Donc, trouvons le bon trousseau, prenons la bonne clé, voilà. La bonne porte et la bonne option. Et puis, puisqu'on parlait non pas forcément politique, mais comme tout auditeur ou tout lecteur qui a aussi une conscience, une responsabilité dans la question aussi de l'urne et du vote. Quand ils votent. Je vous propose de vous retrouver demain et
nous clôturons
un petit peu cette série avec vous. Et merci.
À demain.